gros, le titre de la prédication que Paul aborde en à peu près 48, ça ne nous rajeunit pas, dans l'église d'Antioche de Pisidie, c'est dans Actes 13. On sait que Paul a très souvent prêché, enseigné l'Évangile, enseigné l'Ancien Testament. Luc nous a gardé 5 prédications de Paul seulement, malheureusement. On aimerait bien avoir les autres aussi. Ça serait fort intéressant, je pense, pour nous. Je crois que ces prédications de Paul nous sont données dans la Bible comme modèle pour les prédicateurs, mais aussi comme modèle pour chacun d'entre nous quand on présente l'Évangile. Et je crois que le premier point évident dans la prédication de l'apôtre Paul, et qui est aussi un modèle pour nous, on est appelé à présenter la fidélité de Dieu. Dieu tient ses promesses. Dieu est fidèle. Alors je vous invite à lire avec moi la prédication de l'apôtre Paul. C'est un texte assez long, dans Actes 13, à partir du verset 16. Alors Paul se leva, d'un geste de la main, il demanda le silence et dit « Israélites, et vous tous qui craignez Dieu, écoutez-moi. Le Dieu de notre peuple d'Israël a choisi nos ancêtres. Il a fait grandir le peuple pendant son séjour en Égypte. Ensuite, en déployant sa puissance, il l'en a fait sortir. Pendant 40 ans environ, il l'a supporté dans le désert. » Après avoir détruit 7 peuplades dans le pays de Canaan, il a donné leur territoire à son peuple. Tout cela a duré environ 450 ans. Après cela, il a donné à nos ancêtres des chefs jusqu'à l'époque du prophète Samuel. Alors le peuple a demandé un roi et Dieu leur a donné Saül, fils de Kish de la tribu de Benjamin. Celui-ci a régné sur eux pendant 40 ans, mais Dieu l'a rejeté et leur a choisi pour roi David. C'est à lui qu'il a rendu ce témoignage, « En David, fils d'Isaïe, j'ai trouvé un homme qui correspond à mes désirs. Il accomplira toute ma volonté. » Or voici que Dieu vient d'accorder à Israël un sauveur parmi les descendants de David, comme il l'avait promis. Et ce sauveur, c'est Jésus. Avant sa venue, Jean avait appelé tous les Israélites à se faire baptiser en signe d'un profond changement. Arrivé au terme de sa vie, Jean disait encore, « Qui pensez-vous que je suis ? Je ne suis pas celui que vous attendiez. Non, il vient après moi, et je ne mérite pas de dénouer ses sandales. Mes frères, vous qui êtes les descendants d'Abraham, et vous qui craignez Dieu et qui êtes présents parmi nous, c'est à nous que Dieu a envoyé cette parole de salut. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont pas compris ni qui était Jésus, ni les paroles des prophètes, qui sont lus chaque jour de sabbat. Et voici qu'en condamnant Jésus, ils ont accompli ses prophéties. Ils n'ont trouvé chez lui aucune raison de le condamner à mort, et pourtant, ils ont demandé à Pilate de le faire exécuter. Après avoir réalisé tout ce que les Écritures avaient prédit à son sujet, ils l'ont descendu de la croix et l'ont déposé dans un tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité. Pendant de nombreux jours, Jésus s'est montré à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée jusqu'à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous, nous vous annonçons que la promesse que Dieu avait faite à nos ancêtres, il l'a pleinement accomplie pour nous, qui sommes leurs descendants, en ressuscitant Jésus. Selon ce qui est écrit au psaume 2, « Tu es mon fils aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. » Dieu avait annoncé celui qui ne devait pas retourner à la pourriture, c'est ce qu'il avait dit en ces termes. « Je vous accorderai les bénédictions saintes et sûres que j'ai promises à David. » Dans un autre passage, il est dit encore, « Tu ne laisseras pas un homme qui t'est dévoué se décomposer dans la tombe. » Pourtant David, après avoir en son temps contribué à l'accomplissement du plan de Dieu, est mort et a été enterré aux côtés de ses ancêtres. Il a donc connu la décomposition, mais celui que Dieu a ressuscité ne l'a pas connu. Sachez-le donc, mes frères, c'est grâce à lui que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est par lui que tout homme qui croit est acquitté de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être acquitté par la loi de Moïse. Veillez donc à ce qu'il n'arrive pas ce qu'ont dit les prophètes. Regardez, homme plein de mépris, Soyez dans l'étonnement et disparaissez, car je vais accomplir en votre temps une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous en parlait. » À la sortie, on leur demanda de reparler du même sujet le sabbat suivant. Quand l'assemblée se fut dispersée, beaucoup de juifs et de non-juifs convertis au judaïsme et qui adoraient Dieu suivirent Paul et Barnabas. Ceux-ci s'entretenaient avec eux et les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Voilà. Une longue prédication de Paul. Le premier point, sans doute assez clair, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu. Vous l'avez sans doute remarqué tout au long du passage. Il rappelle les promesses de Dieu et rappelle qu'elles sont bel et bien accomplies. Le deuxième point qui est aussi assez évident, c'est que Paul raconte une histoire. En l'occurrence ici, l'histoire du peuple d'Israël. Quelles sont les histoires que vous racontez à vos amis lorsque vous leur parlez de la foi? Je parle bien de raconter des histoires, pas de faire des histoires, ça on sait aussi. Hein. Au temps de l'apôtre Paul, les gens aiment écouter des histoires. Je pense qu'il y a une cinquantaine d'années en France, on pensait que les gens voulaient surtout des confrontations d'arguments idéologiques. Peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas aujourd'hui, comme au temps de Paul, on aime les histoires. On aime les histoires. Pensez à ce que vous lisez, ce que vous regardez à la télé, on aime des histoires. Des histoires vraies ou des histoires inventées, mais on aime des histoires. Quelles sont les histoires que vous racontez à vos amis quand vous le voulez leur faire découvrir la foi? Paul pourrait sans aucun problème faire une grande conférence ou toute une série de cours de théologie, balancer des tonnes d'arguments. Paul, il sait très bien le faire et certainement il aurait pu le faire. Mais ce n'est pas ça qu'il fait. Il raconte l'histoire du peuple de Dieu. Ouais. Paul commence par la sortie d'Égypte. Alors peut-être une petite parenthèse. Lorsqu'il parle à des Juifs, il commence par la sortie d'Égypte. Lorsqu'il parle à des païens, il commence souvent par la création. Vous voyez, Paul commence par le début de l'histoire. Et il commence par un début plutôt, on va dire, intéressant et agréable. Dans la suite, il devra dire des choses un peu désagréables, mais il commence par des choses plutôt positives. Il commence en disant « Dieu vous a choisi ». Dieu vous a choisi. Dieu s'est choisi un peuple, le peuple juif. Paul démarre avec la sortie d'Égypte, un peuple opprimé par un tyran, des travaux forcés, de la violence, et un super-héros arrive et libère le peuple. Un peu seul contre tous, il arrache la victoire. On a l'impression qu'on est dans un Marvel un peu. Hein. Par contre, vous voyez que c'est un peu différent quand même que les films de Marvel. Dans les films de Marvel, les mots-clés sont plutôt courage, technologie, pouvoir, beauté, voire richesse. Ici, le terme clé, c'est « Dieu a choisi ». Dieu vous a choisi. Dieu a choisi de les faire sortir d'Égypte. Dieu a choisi de les installer en Canaan. Dieu leur a donné un pays. Dieu leur a donné des chefs. Dieu leur a donné un roi. Dieu choisit et Dieu donne. C'est le mot qui revient le plus dans l'histoire que raconte Paul. Dieu choisit. Et Dieu donne. Et aussi, Dieu supporte. Dieu les a portés, mais Dieu les a aussi supportés. Le héros de l'histoire, c'est Dieu lui-même. Alors, comme chez Marvel, le héros, il a des collègues ou des amis autour de lui. Alors, il y a Moïse et David qui sont un peu les compagnons, mais le vrai héros, c'est Dieu, celui qui choisit et celui qui donne. Et vous avez vu qu'en passant, il va glisser une première affirmation pour un peu titiller. Il parle de David et il parle que Dieu a trouvé un homme selon ses désirs, un homme qui accomplit la volonté de Dieu. C'est au verset 22 et c'est une citation de 1 Samuel 13, 14. Vous voyez, il commence à rappeler, Dieu cherche des hommes selon son désir. Est-ce que nous serons de ces hommes-là ou de ces femmes-là? Ensuite, il va parler d'un autre don de Dieu, le don d'un sauveur. Un sauveur né de la descendance de David. Et ce sauveur se nomme Jésus. Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Un sauveur qui se nomme sauveur. Paul va mentionner en passant Jean-Baptiste, parce qu'il est un personnage qui est très connu à son temps, et aussi parce que c'est un personnage qui a appelé à la repentance et à la foi. Vous voyez ? Il est en train, dans son histoire, de glisser quelques mots-clés. Le mot « sauveur », le mot « repentance » et le mot foi. Vous constaterez que Paul ne raconte pas toute la vie de Jean-Baptiste. Il ne parle pas des poils de chameau, des sauterelles ou du désert. Il pourrait raconter tout ça. Vous voyez, il se concentre sur son fil rouge. Dieu accomplit ses promesses. Dieu nous a choisis, Dieu nous fait des dons, Dieu donne un sauveur et il nous appelle à la repentance et à la foi. Paul ne confronte pas encore vraiment. Vous savez, parfois on a cette idée de l'évangélisation qu'il faut surtout confronter. Vous voyez que Paul ne le fait pas vraiment en fait. Tout à la fin, il va le faire un peu. Mais pour l'instant, il se contente de glisser un peu quelques petites notions. C'est comme dans les bons films, hein, où dès le début du film, on commence à nous glisser les choses importantes qui vont ensuite se dérouler en cours de film. Le but de Paul, c'est certainement de montrer que Jésus est le sauveur promis par Dieu, que c'est par Jésus que Dieu tient ses promesses. Mais il faut peut-être préciser un peu. Le but de Paul semble quelque part donner envie de savoir qui est Jésus. Il ne dit pas tout, ou j'irais presque, il dit peu de choses. Alors, dans la Bible, on a une sorte de résumé de sa prédication, il a dit plus de choses, mais on se rend bien compte qu'il ne dit pas tout, et sans doute volontairement. Ce qui l'intéresse avant tout, c'est de donner soif de connaître Jésus davantage. Quelque part, son but, c'est que les gens viennent vers Paul pour poser d'autres questions, pour que eux, ils veulent aller plus loin. C'est ce qui se passe dans cette histoire. Vous avez vu tout à la fin, il y a plein de gens qui viennent vers Paul et Barnabas pour avoir la suite. Le but de Paul, c'est de donner soif, de donner envie d'en savoir plus, pas de tout dire d'un coup. On a parfois cette tendance-là, de vouloir tout dire en 5 minutes. Bon, je crains que c'est parfois un petit peu improductif et un petit peu imbuvable. Il vaut mieux un discours agréable et qui donne soif d'aller plus loin. Bon, après, vous me direz si j'ai réussi à le faire dans ma prédication. Parce que, voilà. Au verset 26, l'apôtre Paul amène une certaine transition dans sa prédication. Il dit « c'est à nous que Dieu a envoyé cette parole de salut ». Vous voyez qu'à nouveau, ce n'est pas d'abord une mise en garde. Il va le faire un peu à la fin. C'est d'abord une sorte de valorisation. Il le rappelle que c'est un grand privilège d'entendre l'Évangile. C'est à nous que l'Évangile est annoncé, et c'est un grand privilège. Dieu nous a choisis, c'est un grand privilège. Dieu nous fait des dons, en particulier le don d'un sauveur, c'est un grand privilège. Dieu nous donne la possibilité de connaître sa parole, ça c'est encore un grand privilège. Comment racontez-vous l'histoire de la Bible à vos enfants ou vos petits-enfants ou vos voisins ou vos amis? Comment leur dites-vous qu'ils sont des privilégiés d'entendre l'histoire de Dieu? Je constate parfois qu'en tant qu'évangélique, on a cette tendance à, j'allais dire, presque un peu supplier les gens en disant « S'il te plaît, laisse-moi parler de l'Évangile, ça m'intéresse moi », vous voyez un peu. Non, ce n'est pas ça du tout. Nous sommes fiers, nous sommes heureux d'offrir un beau cadeau à nos amis. Ils ont, on leur fait un grand privilège en leur annonçant l'Évangile. On leur annonce l'Évangile parce qu'ils le valent bien et parce que c'est un grand privilège de recevoir l'Évangile. Paul continue l'histoire et il raconte cette fois-ci l'histoire de Jésus, en commençant par rappeler que Jésus accomplit les prophéties lues chaque samedi dans les synagogues. Vous constatez que Paul ne cache pas le problème central. Parce que dans l'histoire de Jésus, il y a quand même un grand problème. Et vous savez ce que c'est quand on parle à quelqu'un et qu'on cache les problèmes, les auditeurs commencent tout de suite à se dire « Ah, il y a encore plein d'autres problèmes qui nous cachent ». Il vaut mieux en parler. Alors, Paul n'insiste pas énormément, mais n'empêche, il en parle de manière assez ouverte. Le problème à l'époque de Jésus, de Paul, c'est relativement simple. C'est que Jésus a été condamné par les autorités juives. C'est quand même un grand problème. Jésus a été rejeté par les autorités, par ceux qui connaissent la Bible, par ceux qui sont des modèles de foi. C'est tout de même un grand problème. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, on est plutôt dans la position un peu inverse, hein. Celui qui lutte contre l'autorité, c'est bien vu. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. C'était obéir à l'autorité qui était bien. Ceux qui sont des références dans la connaissance de la Bible ont rejeté Jésus. C'est quand même un grand problème, hein ? Vous voyez que Paul ne va pas cacher le problème, il va simplement montrer courtement qu'il a conscience du problème, mais que cela n'empêche pas de croire en Jésus. Et en fait, il va même un peu retourner le problème, en affirmant que les grands prêtres ont accompli les promesses de Dieu. Ouais. Le but principal est bien sûr de redire cette affirmation clé, Jésus a accompli les prophéties, Dieu est fidèle, il a accompli ses promesses au travers de Jésus. Et en passant, il présente les grands prêtres comme ceux qui ont accompli les prophéties. Vous voyez ? Il aurait pu très bien les présenter comme les méchants, mais oui, c'est pas ça qu'il fait. Ouais. Il les présente comme quelque part des alliés de Dieu dans son projet. Comment est-ce que vous racontez à vos amis les difficultés ou les reproches faits à la foi chrétienne ? Voilà. Bon, pour pouvoir bien sûr dire, ce qui compte vraiment, c'est que Dieu a donné un sauveur. Mais il ne s'agit pas de cacher ces difficultés-là. Comment on les raconte ? Voilà. Comment est-ce qu'on va parler des adversaires de notre foi de manière, on va dire, respectueuse ? Vous vous rappelez peut-être quand on a eu notre intervenant de Portes Ouvertes, Frédéric Monceau, il a présenté cette anecdote où il disait « Un des plus grands évangélistes de Chine, c'est Mao. » On aurait aussi pu présenter Mao comme un grand persécuteur, ce qui est vrai aussi, mais il s'agit avant tout de le présenter aussi par les côtés positifs. Il a préparé l'avenue de l'évangile, sans doute sans le vouloir, comme les grands prêtres au temps de Jésus. Où on avait mercredi une conférence avec Robert Lanier. Robert Lanier a vécu longtemps au Liban, vous savez qu'il y a eu une guerre assez violente au Liban entre les factions chrétiennes et les factions musulmanes, et il a présenté les musulmans surtout comme ceux destinés à recevoir la bénédiction de Dieu. Ouais. Alors bien sûr, il n'a pas caché non plus le fait que, par exemple, l'islam nie le fait que Jésus est mort et ressuscité, le grand point de la foi chrétienne. Mais il insiste surtout sur un point, Dieu veut les bénir, Dieu veut les bénir. Comment est-ce que je parle des difficultés de la foi et des, on va dire, des autres positions ou des positions qui sont contre la foi pour aussi, quelque part, parler avec respect et, en quelque part, en les valorisant? Oui, Dieu veut aussi les bénir. Oui, ils disent aussi un certain nombre de choses tout à fait vraies. Paul mentionne la mort de Jésus, mais il affirme aussi et surtout avec beaucoup de force sa résurrection. Il l'annonce comme un fait attesté, un fait annoncé par les prophéties et un fait attesté par de nombreux témoins. Il parle de ceux qui l'ont accompagné depuis la Galilée, donc surtout des disciples ou des 12 premiers apôtres, on va dire comme ça. Et il va citer ici le psaume 16, verset 10, un passage qui est très souvent cité par les apôtres. Il est cité ici au verset 35, « Tu ne laisseras pas un homme qui t'est dévoué se décomposer dans la tombe ». Quelle citation connaissons-nous par cœur ? Quel passage biblique ? Quelle citation d'homme célèbre ? Ou quelle phrase culte d'un film ? Que vous utilisez quand vous parlez à vos amis ? Ouais. Alors, je crois que j'ai mis deux citations sur le PowerPoint. Ouais. Voilà, deux petites citations que j'utilise plutôt quand je rencontre des amis qui sont, un peu surbookés. Voici une citation de Thierry Chavel. « Vivre intensément tout le temps n'est pas mon antidote au néant. Au contraire, cela m'y jette continuellement. » Vous savez que j'ai été pendant longtemps aumônier des étudiants. Une des caractéristiques de beaucoup d'étudiants, c'est qu'ils ont peur de s'ennuyer. Il faut tout le temps faire quelque chose. Oui, vous connaissez des gens comme ça ? Il faut toujours vivre intensément. Et c'est parfois précieux de le rappeler. Vivre intensément tout le temps n'est pas une antidote au néant. Au contraire, elle nous y jette continuellement. Si on veut vivre vraiment, il faut savoir s'arrêter et penser à Dieu. Une autre citation par Martin Buber, je ne sais pas si vous connaissez ce philosophe d'origine juive, allemand. J'aime bien cette petite citation. « L'homme ne peut échapper à l'œil de Dieu, mais en cherchant à se cacher de lui, il se cache de lui-même. » Certes, il y a bien en lui quelque chose qui le cherche, mais il empêche de plus en plus ce quelque chose de le trouver. Ah, c'est de la philosophie, hein, c'est Martin Buber. Martin Buber, on ne peut pas le lire très rapidement. Hein. N'empêche que j'aime bien cette idée-là. D'abord parce que ce n'est pas un chrétien qui le dit, mais je pense qu'il dit là quelque chose de très vrai. Dieu nous cherche. Dieu nous cherche. Mais l'homme veut se cacher de Dieu. Le problème, c'est qu'en se cachant de Dieu, il se cache de lui-même. Ah, je trouve ça intéressant. On est dans une période où les gens se cherchent beaucoup eux-mêmes. Leur grande priorité, c'est mon épanouissement, qui je suis, est-ce que je trouve quelque chose qui est vraiment ma vie. Enfin, vous voyez, ma vie, hein, voilà. C'est ça qui nous préoccupe le plus. Et ici, il dit, on ne peut trouver notre vie qu'on trouve en Dieu, qu'on laisse en Dieu nous trouver. Voilà. Alors, vous n'utilisez pas ça avec n'importe qui, mais pour ceux qui aiment un peu la philosophie, je trouve que c'est quand même... Voilà. Après, si vous voulez d'autres citations, vous avez la fameuse citation qu'on entend beaucoup actuellement dans nos médias, « Le salut commence maintenant ». Oui, non, vous avez entendu ça, hein ? Le salut commence maintenant. Alors, ils ne disent pas « Le salut commence maintenant », c'est autre chose qui commence maintenant, mais vous connaissez ça ? Non, vous ne connaissez pas ? Qui connaît cette phrase-là ? « The battle commence maintenant ». Non, vous disiez... Bon, on ne regarde pas les mêmes émissions, manifestement. Ou vous avez le film « Les Croûtes », j'aime beaucoup le film « Des Croûtes ». La phrase clé du film au début, c'est « Ne jamais ne pas avoir peur ». Ouais. Puis à la fin du film, il dit « Ne jamais avoir peur ». Ouais. Bon, bref, vous avez sans doute d'autres citations que vous trouvez dans vos films préférés ou vos séries préférées. Paul démontre que Jésus est ressuscité selon la promesse de Dieu et que sa résurrection permet le pardon des péchés. Paul ne présente pas ici tous les détails. Il présente ce qui est vraiment important pour ses auditeurs. Le pardon des péchés est possible. Il est possible parce qu'il est lié à la foi et non pas lié aux œuvres, parce que les œuvres ne sont jamais suffisantes. Et je pense que tout le monde sait ça. Nos efforts ne suffisent jamais. Alors, on va peut-être juste relire cette partie-là de son discours, les versets 38-39. « Sachez-le donc, mes frères, c'est grâce à Jésus que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est par lui que tout homme qui croit est acquitté de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être acquitté par la loi de Moïse. » Vous constaterez qu'il y a là une petite différence entre l'époque de Paul et aujourd'hui. À l'époque de Paul, les gens sont très conscients de leurs fautes et de la réalité du jugement. Et ils ont peur du jugement. Et ils cherchent un moyen de pardon, de salut. Aujourd'hui, on refuse simplement l'idée qu'on doit être jugé un jour et rendre des comptes à Dieu. C'est un peu plus délicat de parler du pardon, en fait. Et il nous faut parfois faire quelques détours qui étaient moins nécessaires pour Paul, peut-être plus pour nous. Par exemple, parler de la soif de justice. Ça, c'est une des grandes réalités, en tout cas parmi les Français, la peur de l'injustice. Donc parlons que justice soit faite. Ça permet ensuite de parler du jugement. Et de parler que si justice sera faite, ben elle sera faite pour tout le monde, pour moi aussi, par exemple. Hein. Et puis, bien sûr, on peut plus insister, comme Martin Buber l'a fait, de dire « réussir sa vie, c'est trouver Jésus, c'est laisser Dieu me trouver ». Et Paul va terminer son discours par une interpellation. Il va simplement dire « veillez, veillez ». Et puis ensuite, il continue avec une citation d'Habacouc. C'est toujours intéressant, quand on doit dire quelque chose de plus désagréable, de le mettre dans la bouche de quelqu'un d'autre. Ouais ? Bah oui. Ça permet d'éviter une confrontation trop directe. Donc voilà, il cite cette citation d'Habacouc. C'est Habacouc 1, verset 5, repris dans nos Bibles au verset 41. « Regardez, hommes pleins de mépris, soyez dans l'étonnement et disparaissez, car je vais accomplir en votre temps une œuvre que vous ne croiriez pas si l'on vous en parlait. » Voilà. Vous voyez qu'il termine avec une citation, disons-le quand même, un petit peu étrange. Oui ? Je ne sais pas si vous avez tout compris dans cette citation-là, mais elle est un peu étrange et c'est volontaire. Il s'agit justement d'interpeller, de faire réfléchir, pas de donner toutes les clés tout de suite. De forcer à commencer à réfléchir. Quand ils vont réfléchir, le Seigneur va les éclairer. Ou peut-être qu'ils poseront des questions à d'autres chrétiens et ils trouveront la réponse. Paul raconte des histoires. Ici, l'histoire du peuple de Dieu. Il vaut mieux toujours raconter des histoires plutôt que d'entrer dans des batailles d'arguments. Paul insiste sur les promesses de Dieu. Notre Dieu est un Dieu qui nous choisit, un Dieu qui nous donne ce qu'on a besoin. Il insiste surtout sur la grande promesse de donner, d'envoyer un sauveur. Et il insiste sur cet événement extraordinaire de la résurrection de Jésus et sur le privilège qui nous est donné d'entendre cette bonne nouvelle. La résurrection a eu lieu et nous ouvre le chemin de la réconciliation avec Dieu. Puis il va terminer avec des points de suspension. Il met cette citation d'Habacouc, un peu comme des points de suspension. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas réfléchir? Voilà. Je vous propose simplement de reprendre, si tu peux mettre la diapo suivante, s'il te plaît. Vous rappelez les différents éléments qu'on a vus dans ce passage et dans le chapitre précédent. Paul annonce l'évangile d'abord aux Juifs, à ceux qui ont déjà une première connaissance de la Bible. Mais il annonce aussi l'évangile à tous les autres. Il commence dans une ville, et de cette ville, il tourne autour. Il commence par les gens qui permettront que l'évangile va se répandre. Il va saisir les opportunités. Il fait des plans, mais surtout, il saisit les opportunités que Dieu lui donne. Sa priorité, c'est l'annonce de l'évangile, et non pas l'aide sociale, par exemple. Ensuite, il raconte et il raconte encore. Il parle à des Juifs qui connaissent l'histoire du peuple juif, mais qui aiment cette histoire, qui aiment qu'on la leur raconte encore une fois. Et puis, il valorise chaque fois que cela est possible. L'évangile est d'abord une bonne nouvelle. D'abord une bonne nouvelle. Une nouvelle qui fait du bien. Je vous invite à prier pour terminer. Seigneur Jésus, nous le savons, le plus important, c'est de pouvoir être pardonné et réconcilié avec toi. Mais on sait bien que pour beaucoup de nos amis, ce n'est pas leur priorité. Leur priorité, c'est leur propre vie. Et je te prie, Jésus, que tu nous aides à leur raconter cette merveilleuse histoire du salut. À leur raconter comment c'est pour eux aussi, s'ils veulent bien se repentir et croire. Seigneur, aide-nous à savoir prendre du temps, comme l'a fait l'apôtre Paul. À prendre du temps pour raconter l'histoire tranquillement, passionnément. Raconter une histoire qui fait du bien, qui valorise, qui rappelle nos privilèges. Le privilège d'être aimé par Dieu et d'être appelé par lui. Et qui rappelle aussi le fait que nous avons un appel. Que tu nous cherches et on doit se laisser trouver. Seigneur, viens nous rappeler sans cesse combien toute cette histoire de salut est merveilleuse. Combien elle mérite vraiment qu'on s'y attarde. Et combien elle mérite vraiment qu'on la raconte et qu'on la raconte encore. Amen.